Laudetur Jesus Christus.
L'euthanasie est un crime contre la vie. L'impossibilité de guérir ne doit pas signifier la fin de toute action médicale. Le Saint-Siège le rappelle avec force dans un document majeur publié ce mardi par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Une lettre intitulée « Samaritanus bonus ». Toutes les précisions dans un instant. Ouverture du sommet des chefs d'État à l'Assemblée générale de l'ONU, le cardinal Parolin s'y est exprimé hier, juste avant le message vidéo du pape attendu vendredi. Aujourd'hui, la tribune virtuelle voit les interventions des présidents américains, russes, chinois, français et iranien. Vers une voie de sortie de crise pour le Mali qui a un nouveau président de transition. Un ancien colonel a été désigné par la junte militaire juste avant la fin de l'ultimatum posé par la CEDEAO. Mais plusieurs questions restent en suspens. Les évêques québécois s'insurgent contre les nouvelles restrictions anti-Covid qui touchent les lieux de culte. Ils réclament une approche réaliste, assurent de leur collaboration, mais déplorent un manque d'écoute et de dialogue de la part des autorités.
Radio Vatican, le journal. Manuela Figi.
Bonjour à tous, c'est donc un texte important que publie ce mardi la Congrégation pour la doctrine de la foi, une lettre intitulée « Samaritanus bonus » qui rappelle la ferme opposition de l'Église à toute forme d'euthanasie et de suicide assisté et invite à toujours prendre soin jusqu'au bout des personnes en fin de vie. Un texte jugé nécessaire au Vatican devant de nombreux cas de législation évoluant vers l'euthanasie justement. Le compte-rendu avec Olivier Bonnel.
L'objectif de cette lettre est de fournir des indications concrètes pour actualiser le message du bon samaritain. Même lorsque la guérison est impossible ou peu probable, l'accompagnement médical, psychologique et spirituel est un devoir incontournable, peut-on lire dans ce document. Guérir si possible, toujours prendre soin. Samaritanus bonus rappelle ces mots de Jean-Paul II pour expliquer en quoi cet accompagnement jusqu'au bout est essentiel. Prendre soin de la personne malade, être avec elle, l'accompagner en l'écoutant, en lui faisant sentir qu'elle est aimée et désirée, voilà ce qui peut éviter la solitude, la peur de la souffrance et de la mort, autant d'éléments qui sont aujourd'hui parmi les principales causes des demandes d'euthanasie. Supprimer un malade qui demande l'euthanasie ne signifie pas reconnaître son autonomie et la valoriser, précise encore la Congrégation pour la doctrine de la foi, et bien au contraire cela signifie ignorer la valeur de sa liberté fortement conditionnée par la maladie et la douleur et la valeur de sa vie. Cette lettre revient aussi sur des expressions en vogue quand on parle de fin de vie, soulignant par exemple l'équivoque du concept de mort digne ou une compréhension erronée de la compassion. La véritable compassion humaine, au contraire, ne consiste pas à provoquer la mort, mais à accueillir le malade, à le soutenir, souligne le document. Cette lettre rappelle enfin la valeur de l'objection de conscience pour les médecins. Elle demande aussi à certaines églises locales d'adopter des positions claires et unifiées sur ces questions sensibles. Il est important, conclut le texte, que les médecins et tout membre du personnel de santé soient formés à l'accompagnement chrétien des mourants, comme l'ont montré les récents événements dramatiques liés à l'épidémie de Covid-19.
Olivier Bonnel, éclairage sur ce document et entretien sont à retrouver sur notre site vaticannews.va. Le pape François, lui, s'adressera par vidéo-message à la 75e Assemblée générale des Nations unies ce vendredi 25 septembre, soit exactement 5 ans après sa visite au Palais de Verre en 2015, lors de son voyage apostolique aux États-Unis. En attendant, c'est le cardinal Pietro Parolin qui a pris la parole hier soir à la tribune virtuelle. Il a réaffirmé le soutien du Saint-Siège au multilatéralisme. Nous ne pouvons pas continuer à ne penser qu'à nous-mêmes ou à encourager les divisions. Nous devons travailler ensemble pour porter les fardeaux qui affectent l'humanité, a déclaré le cardinal italien. C'est le sommet des chefs d'État qui débute aujourd'hui. Ils prendront tous la parole cette semaine et la matinée qui s'ouvre promet d'être très dense puisque ce sont les présidents américains, russes, chinois, français et iraniens qui s'expriment dans des discours enregistrés. Et avec eux, ce sont les principales questions géopolitiques du moment qui sont exposées, les tensions en Méditerranée orientale, le nucléaire iranien ou encore la guerre commerciale entre Washington et Pékin. La Chine, qui est accusée par Taïwan de menacer la paix depuis quelques jours. L'armée chinoise multiplie les incursions dans le détroit de Taïwan, divisé par une ligne médiane globalement reconnue qui fait office de frontière maritime entre les deux ennemis. Mais cette semaine, le porte-parole de la diplomatie chinoise a affirmé que cette ligne n'existait pas et que Taïwan faisait partie intégrante du territoire chinois. Taipei exige ce matin que Pékin fasse marche arrière. La situation au Liban reste aussi un dossier majeur, toujours sans gouvernement puisque la classe politique peine à se mettre d'accord. Le président Aoun ainsi que le Premier ministre appellent les partis à collaborer pour le bien du pays. Mais l'inconnu s'installe, la crise économique qui ne donne aucun répit aux Libanais par exemple. Entre désespoir, colère et résignation et face à une équation politico-économique pour le moment insoluble, ils se tournent vers l'immigration avec un phénomène nouveau, la multiplication des traversées de la mer vers l'île de Chypre. Vendredi encore, les corps de 4 migrants illégaux ont été repêchés par les autorités. À Beyrouth, Paul Ralifet.
Les 4 corps repêchés par l'armée libanaise et la défense civile près des côtes du Liban appartiennent à des passagers d'une embarcation à la dérive secourue au large de l'île de Chypre lundi 15 septembre. Il y avait à son bord 36 survivants, dont certains dans un état critique. Mais le nombre de passagers était à l'origine plus élevé, peut-être 50 selon des sources diverses, ce qui signifie qu'une dizaine de personnes au moins sont toujours portées disparues. Il s'agit en majorité de Syriens et de Libanais, mais aussi d'autres nationalités. L'un des corps retrouvés appartient à un Indien. L'armée libanaise a annoncé l'intensification des opérations de recherche après la fermeture de routes dans le nord du pays par des manifestants en colère. Depuis début septembre, au moins 5 bateaux transportant quelques 200 migrants ont été repérés. L'une des embarcations a été interceptée par une patrouille de la marine libanaise. Une autre a été secourue par des bâtiments de la force navale de la FINUL. Un troisième bateau a été refoulé par les gardes-côtes chypriotes. Cette fréquence dans les tentatives de traverser vers Chypre est inédite et montre que le Liban devient une terre de départ pour des migrants clandestins souhaitant se rendre sur l'île qui fait partie de l'Union européenne. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Le Mali a enfin un président de transition. Il s'agit du colonel-major à la retraite Ba Endo, connu pour avoir été ministre de la Défense du président déchu Ibeka. Une nomination qui vient à point nommé juste avant l'ultimatum lancé par la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Paul Lorgerie.
Et oui, le Mali a un président de la transition et c'est un civil. C'est en tout cas ce qu'avaient demandé les chefs d'État de la CEDEAO le mardi 15 août dernier, sous peine d'alourdir l'embargo sur les flux financiers et les échanges commerciaux qui commencent à asphyxier le Mali. Un civil, certes, quoiqu'un militaire à la retraite. Et si le nom de Bandao n'avait pas fuité, c'est bien sur ce type de profil que tout le monde spéculait. D'autant que le nouveau président de la transition sera épaulé par le colonel Assimi Goïta, actuel président du Comité national pour le soutien du peuple, le CNSP, qui a renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Un accord qui semble être unanime au sein du collège chargé de le désigner, composé par 7 membres du CNSP ainsi que de représentants des autorités religieuses, politiques et de la société civile. Et si l'investiture du colonel-major retraité se fera vendredi prochain, reste encore à désigner un premier ministre et un gouvernement pour entamer pleinement la transition. Et pour plaire pleinement à la CEDEAO qui menace, il faudra que ce premier soit un civil également. Bamako, Paul Lorgerie pour Radio Vatican.
Un point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Les nombres de cas augmentent généralement dans le monde. Celui des décès, en revanche, baisse, selon les données rassemblées par l'OMS. Plusieurs pays ont décidé de durcir les mesures de restriction. Le Québec, par exemple, a décidé de restreindre les rassemblements dans les lieux de culte qui pourront accueillir 25 à 50 personnes, alors que les cinémas, par exemple, peuvent en accepter 250. Les évêques de la province font part de leur incompréhension. Le président de la conférence épiscopale dénonce les inégalités de traitement dont les lieux de culte font l'objet dans la crise sanitaire. Cyprien Viette.
L'évêque de Saint-Hyacinthe assure que les leaders religieux font tout le nécessaire pour mettre en place les mesures de protection. Il demande une approche réaliste tenant compte des espaces disponibles dans les églises qui doivent permettre une distanciation physique raisonnable. Monseigneur Rodenbourg, qui précise qu'aucune éclosion connue de la contagion ne s'est produite dans un lieu de culte, réclame aussi l'établissement d'un canal de communication direct avec le gouvernement québécois. Au-delà du bien fondé ou non de cette décision, c'est en effet le manque d'écoute et de dialogue qui est dénoncé. Beaucoup d'appels et de messages sont restés sans réponse, alors que dans les provinces voisines, les autorités gouvernementales sont en contact direct et constant avec les leaders religieux. Il n'y a aucune communication du même genre au Québec. Cette situation est décevante et inacceptable, s'insurge-t-il. Dans un contexte de sécularisation qui amène certains responsables politiques à ne percevoir les religions que comme les traces d'un folklore dépassé, l'évêque rappelle qu'elles méritent plus de respect. En ces temps troublés, des milliers de Québécois trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficie à l'ensemble de la population. Quoi qu'on puisse en penser, santé, la spiritualité et la recherche de sens ont une place essentielle dans la vie humaine. Ce service à la communauté nous apparaît nécessaire pour aider nos fidèles à traverser cette crise sanitaire, précise l'évêque québécois.
Cyprien Viette. La Californie, toujours ravagée par des incendies monstrueux, et cela depuis un mois. 19 000 pompiers luttent d'arrache-pied contre 27 incendies majeurs d'une intensité jamais vue jusqu'ici. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est Marie Duhamel qui sera aux manettes du journal de 18h ce soir. Je vous retrouve quant à moi demain matin. Très belle journée à tous.